Alors, il faut entre 3 et 5 ans pour former un astronaute. Donc là, ils vont partir à l'EAC, donc le Centre européen des astronautes à Cologne, au printemps. Et ils vont être formés à peu près au moins pendant 3 ans. Donc formation de base, puis formation spécifique pré-mission. Et une fois qu'ils seront assignés à une mission, ils auront une formation d'à peu près 1 an pour cette mission. Et ils iront en orbite basse.
Ah, c'est quoi l'orbite basse?
Donc c'est la station spatiale internationale.
Ah, bah oui.
D'accord.
Puisqu'on va prolonger son utilisation jusqu'à 2030. Donc il y aura encore des vols de longue durée, à peu près 6 mois. Certains vont aller vers la Gateway, en fait, qui est la prochaine.
La Gateway. C'est quoi?
Qui est la prochaine station, mais qui sera en orbite lunaire cette fois, et non pas en orbite basse. Et puis, peut-être qu'il y en aura qui auront la chance d'aller sur la Lune, puisque l'idée, quand même, c'est d'essayer de poser le pied d'un astronaute européen avant 2030 sur la Lune.
Ouais. Tu sais, parce qu'on a un strapontin, donc on ne peut pas être 5 sur un strapontin. Non, mais je blague, mais à peine. En fait, ma conviction, c'est qu'il est impossible pour un pays, pour des grands États comme l'Europe, d'être absent du vol habité. Donc, on est dans le vol habité, très bien. Simplement, ce n'est pas nous qui avons les vaisseaux. C'est-à-dire que ce sont bien les États-Unis. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est des grandes puissances qui aujourd'hui utilisent le vol habité pour quelque chose qui s'appelle la suprématie, la démonstration de puissance. Et effectivement, bon, pour nous, c'est important d'y être parce que nous sommes des partenaires. Alors, on a été partenaire de la Russie, on est surtout partenaire des États-Unis et c'est extrêmement important. Et ce qui est important, c'est pour le public. Et c'est pour le personnel politique. Aux États-Unis, 50% des budgets vont, pour la NASA, au vol habité. C'est pas que le président américain aime le vol habité, mais simplement, c'est le support populaire. Et ce support populaire, il est aujourd'hui peu négociable. Dites du mal des astronautes, vous allez voir ce que vous allez vous prendre. Donc, parce que ça fait rêver. Alors, et cette puissance onirique, elle est toujours présente. Et bon, ben voilà, des hommes dans l'espace, tout le monde rêve de ce que...
Et des femmes.
Partent dans les étoiles.
C'est deux choses différentes de la souveraineté en matière spatiale. Ce sont les lanceurs, les applications, la science et le vol habité. On a un module européen dans la Station Spatiale Internationale. On a des astronautes européens. On est même en train d'en former des nouveaux. On n'a pas l'autonomie des vols habités vers l'espace, c'est-à-dire que personne ne décolle de Kourou dans un lanceur européen avec une capsule européenne. Ça a failli se faire au moment d'Hermès et Columbus au milieu des années 80. On a renoncé.
Mais pour...
Parce que transformer un lanceur qui était un lanceur commercial en lanceur pour des êtres humains, ben, ça fait effectivement une complexité extrême. Et on a jugé à l'époque que finalement l'Europe, ça... Son ADN, c'était peut-être la coopération. Et que du coup, elle savait coopérer avec les Russes, elle savait coopérer avec les Américains. Elle parle aujourd'hui, il y a des entraînements d'astronautes avec des Chinois. Et donc, on s'est dit, ben, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin à titre européen? D'autant plus que, pour rebondir sur ce que disait Alain Sirou, en fait, il y a une adéquation peut-être encore plus entre la fierté nationale que la question de la souveraineté. Or, effectivement, à l'ESA, nous en France, on connaît Thomas Pesquet,
Claudie Aigneret,
Jean-Pierre Aigneret, bon. Mais en Italie, on va connaître les astronautes italiens. En Angleterre, on va connaître l'astronaute anglais. Et même en Suisse, on a des astronautes suisses que nous ignorons complètement. Et donc, si vous voulez, je pense que cette inadéquation d'un fédéralisme à l'européenne, je ne sais pas trop comment il faut appeler ça, finalement, ne nous permet pas de donner un budget. Et l'opinion publique n'adhérera pas à un astronaute européen, même si ça a été tenté plein de fois.
Effectivement, avant la réunion, on n'était pas très sûr d'arriver
à la réunion d'hier,
à ce qu'on voulait. Voilà. 18, on savait qu'on était, on était très ambitieux. Il faut toujours avoir plus d'idées que d'argent, que nos États membres ont d'argent. Ce qui serait terrible, c'est que les États membres aient 20 milliards d'euros à mettre sur la table et qu'on n'ait pas les projets qui vont avoir. Évidemment, on voudrait plus d'argent, évidemment, on voudrait plus d'ambition. En même temps, comme disait le philosophe Aron, il y a la légitimité de l'époque. Une décision n'est pas bonne ou mauvaise en soi, il y a la légitimité de l'époque. Donc, on doit, nous, arbitrer entre le fait qu'il faut donner du travail aux ingénieurs, aux bureaux d'études, aux industriels en Europe, parce qu'il faut investir dans l'avenir aujourd'hui. Et en même temps, il ne faut pas avoir donné l'impression qu'on grille dans l'espace beaucoup d'argent, alors que les gens ont froid, faim. C'est quelque chose. Alors, ce n'est pas notre arbitrage, l'arbitrage des politiques qui prennent la décision. Bruno Le Maire était, c'est lui qui était l'hôte de cette réunion. Il est obligé d'en tenir compte. Sûr. Donc c'est ça l'arbitrage.
Ouais. Il est en train de changer très très vite dans le domaine spatial et on est à la ramasse. Faut être très
on est la troisième puissance tout de même. Plus pour longtemps
plus, oui.
Si, on est la troisième puissance, mais
la troisième puissance, elle aura plus de lanceurs l'an prochain. C'est-à-dire que l'an prochain, nous n'aurons plus les moyens de lancer des satellites à partir de l'Europe. Ce qui n'est quand même pas une plaisanterie.
Revenez sur le budget.
On revient sur le budget. C'est quand même 4 à 5 fois moins que la NASA. Systématiquement. C'est-à-dire qu'on est quand même...
500 millions d'habitants et
l'Europe. Je parle seulement de la NASA, c'est-à-dire que le Pentagone pour les satellites militaires, parce que l'espace, ça n'est pas que l'exploration des astronautes. C'est les satellites scientifiques, c'est l'exploration de la Terre, c'est les communications. Et là, ça a explosé. Il y a actuellement des demandes pour 400 000 satellites qui devraient être lancés dans les prochaines années ou qui pourraient être lancés. C'est le militaire. Donc vous vous rendez compte que c'est extrêmement puissant et aujourd'hui, ça bouge très, 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 très vite. Et les ambitions de l'Europe, elles sont importantes. Mais les budgets sont sans doute pas complètement à la hauteur des ambitions.
Alors, même repasser un peu dans le contexte historique, parce que à l'époque, c'était pas célébré par les médias, hein, le premier vol d'Ariane.
Mais toujours
c'est un peu plus compliqué que ça. En 1979, c'était le moment où les Américains mettaient au point la navette spatiale. Et donc nous, avec un lanceur très classique comme Ariane, on apparaissait vraiment comme les petits poussés et ça paraissait pas très sérieux. Et puis pour revenir sur ce qui a été dit, il n'y a pas que les Européens qui peuvent faire des erreurs et se retrouver sans lanceur, parce que les États-Unis, quand même hyper puissance spatiale, ont passé quelques années après le deuxième accident de la navette Challenger à se retrouver sans lanceur du tout. C'est d'ailleurs ça qui a fait pour Ariane lanceur de satellite, mais lanceur d'homme aussi. Oui. Ils n'avaient plus rien. Et donc, du coup, c'est le moment où, si vous voulez, l'Europe a eu cette fenêtre extraordinaire dans laquelle... Et on a du mal à se remettre aujourd'hui de ce qui était quand même une fenêtre d'opportunité. Ce n'est pas nous qui avions créé les situations pour. Il se trouve qu'on était là au bon moment, au bon endroit, ce qui n'est plus le cas. Donc, qu'on soit en retard de 1 an ou 2 ans, c'est quand même extrêmement désagréable. Ce qu'on comprend pas très bien, c'est pourquoi Ariane 5 a été arrêtée avant qu'Ariane 6 soit prêt à prendre le relais. Mais en fait, on le comprend très bien parce que c'est une histoire de budget et de charge de travail. Donc tout simplement, on avait fait la même chose sur Ariane 4 et Ariane 5. Le problème est toujours le même. En fait, aujourd'hui, la question, c'est d'avoir son lanceur qui va être disponible, même si en attendant, on est obligé de tirer par SpaceX, ce qui ne nous fait pas spécialement
SpaceX de
plaisir.
Elon Musk. Ouais.
Et pas de nez pour faire la course avec les Américains ou avec les Russes. L'Agence spatiale européenne est née de la volonté de scientifiques de mettre en commun leur ambition spatiale. Et donc, on n'est pas dans la course. On veut une certaine forme d'indépendance, mais on veut répondre à nos besoins. Et aussi, on veut se placer sur tout le segment du spatial. C'est-à-dire, on fait des télécoms, on fait de la navigation, on a un des meilleurs programmes au monde, si ce n'est pas le meilleur, en observation de la Terre, Copernicus, vous voyez.
Puis on a Galiléo aussi dans tous nos téléphones.
Voilà. Donc, on est sur tout... Le portefeuille, si on se mettait sur un seul segment, on serait sûrement de loin les meilleurs. Mais on a choisi de répondre à tous les besoins spatiaux.
Déjà, Elon Musk, il a une cadence de tir qui est liée à sa propre constellation de satellites qui va avec. Nous n'avons pas en Europe attiré Starlink. Il annonce plusieurs milliers de satellites. Il en a déjà lancé 3000 et il va jusqu'à 40 000 et pourquoi pas. Et plus ses affinités. Donc en réalité, si vous voulez, lui, il intègre son lanceur et ses satellites. Donc en fait, le système, les lanceurs permettent de faire pas cher le lancement du satellite et le satellite permet de faire fonctionner le lanceur qui du coup peut baisser ses prix et il peut produire en série. Mais si vous regardiez à l'époque soviétique, les soviétiques qui n'ont quand même jamais été des grands économistes ou des marchands exceptionnels, ils avaient des lanceurs adaptés à leurs satellites parce que ça coûtait moins cher et ils tiraient en série et ils faisaient baisser les coûts. Donc si vous voulez, je pense qu'en Europe, la vraie question pour le réutilisable, c'est pas une erreur stratégique de pensée, c'est que nous n'avions pas des constellations à lancer et un nombre de satellites correspondant à des besoins européens suffisamment important.
On a bien compris ça. Et je dirais que Iris, qui va être développée, c'est 6 milliards.
6 milliards.
10 milliards à peu
près. Avec des fonds privés, des fonds européens et des fonds privés.
Il y a trois mots-clés, c'est indépendance, autonomie, sécurité. C'est-à-dire, il faut vraiment, comme pour le... Vous montriez tout à l'heure votre téléphone portable, on sait aujourd'hui sécuriser. C'est-à-dire que on sait avec Galiléo...
Vraiment, intégralement sécurisé
Disons que...
Faire
ce peu. Mais en tout cas, personne ne peut couper aux États-Unis ou ailleurs le signal Galiléo, comme on pouvait couper GPS.
Donc
on
la localisation.
La géolocalisation. Et c'est en plus des tas d'applications derrière. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est qu'il y a ce qu'il y a dans le ciel et puis il y a ce qu'on développe comme service. Et donc, Être sécurisé sur du réseau, donc Internet haut débit, c'est aujourd'hui totalement stratégique, comme l'observation de la Terre avec... Il y a Galiléo et puis il y a aussi tout ce qui, tous les satellites qui sont développés aujourd'hui par l'Europe pour pouvoir avoir des informations sur le climat.
C'est ça, dérèglement climatique, etc.
Mais c'est vrai.
Au Conseil qui a pris cette décision, oui. C'est pas une décision facile. Enfin, c'est pas glorieux de prendre ce type de décision. Soyons honnêtes. Oui. On aurait bien aimé que notre lanceur soit prêt. Alors normalement, enfin pendant très longtemps, ça a été une success story Ariane parce qu'on avait toujours deux lanceurs d'avance dans les cartons. Voilà. Bon. Les problèmes qu'on a eu avec Ariane 5 au tout début, et puis on fait que ça n'a pas été possible. Et puis après, il y a aussi quelque chose, et là c'est l'historienne qui vous parle, moi qui me frappe, c'est que pendant des années on faisait des package deals, si vous voulez, pour mettre tout le monde d'accord en Europe. Mm-hmm. On disait, bon, en gros, la France faisait de l'espace pour la gloire de la France. Mm-hmm. Les Anglais le faisaient pour l'économie britannique, les Italiens pour l'industrie spatiale italienne, et les Allemands, ils se demandaient toujours pourquoi ils faisaient de l'espace. Et donc, c'était facile. On donnait les télécoms aux Anglais pour l'économie, ouais. Parce que c'était le secteur commercial. On donnait, pour la gloire de la France,
chacun trouvait
et
son
pour
compte,
la force
quoi,
de frappe, ça. Les lanceurs à la France. Voilà. Maintenant, tout le monde veut faire tout.
Mm. Ah oui.
Tout le monde veut faire tout. Mmh. Les Allemands veulent prendre le leadership dans les
gros
lanceurs.
Gros contributeurs,
les Italiens,
hein, financiers. Hein,
les Italiens ont voulu aussi leur lanceur Vega. On est bien contents de l'avoir aujourd'hui, Vega, parce que c'est pas juste
Vega,
Ariane.
Vega, c'est un mini Vega, lanceur, voilà, en fait, en
absolument.
Gros. Hein, c'est ça. Vega,
donc
c'est...
aujourd'hui, tout le monde veut faire de tout et ça rend les choses un peu compliquées. Ouais. Maintenant, ça va peut-être faire mettre à d'autres alternatives de se dégager.
Par exemple.
Par exemple, il y a des petits lanceurs, il y a des micro-lanceurs, il y a des micro-lanceurs dans les cartons français, il y en a dans les cartons allemands. Donc peut-être qu'on va trouver une solution et que les choses vont s'équilibrer. Aussi, vous parliez du commercial tout à l'heure. Peut-être que l'espace ne sera plus en France qu'une question, une seule question étatique. Oui. Ça sera aussi, il y aura de la place pour les
privés.
Passe prend de nouvelles activités, une nouvelle ampleur. Vous parliez de vos satellites pour Internet, c'est surtout pour les objets connectés.
Les liens, hein.
Oui, non, mais je vous les attribue gentiment, Isis, mais c'est aussi les objets connectés, c'est aussi les voitures avec autoguidage, etc. Donc on voit bien toute cette nouvelle économie de l'espace qui naît. Et ça, elle a un certain nombre d'enjeux sur le plan du trafic. Mais
et il n'y aura pas un jour où il y aura trop de satellites ?
Il y a des satellites qui retombent. La question, c'est comment vous faites pour les faire retomber. Et la question, c'est comment vous gérez les règles de trafic. Donc ça, c'est un élément. Ce que je voulais dire, c'est qu'à l'international, il ne faut pas non plus focaliser uniquement sur le modèle américain. Modèle américain, il a sa logique interne, il a son système, il a un budget qui n'a rien à voir, 50 milliards de dollars tous les ans. On est vraiment dans des ordres de grandeur et ça fait 40 ans que ça dure. Et donc nous, Européens, il faut qu'on trouve notre niche. C'est-à-dire qu'on n'est pas les États-Unis, qu'on n'a pas derrière des tas d'entreprises à la Elon Musk, qu'on n'a pas de GAFA, on n'a pas toutes ces choses-là. En revanche, on a de la compétence scientifique. Non, on a de la compétence scientifique, on a de la compétence technologique. Je n'ai pas l'habitude de vendre l'Europe, mais franchement, je pense que dans le domaine du spatial, on est quand même très reconnu par rapport à nos capacités. Voilà. Donc...